Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale pour Ici l'Europe. En cette semaine où l'Europe est tétanisée à la suite de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, elle s'interroge bien sûr sur son avenir. La France aussi est à un tournant avec le délicat vote de son budget en déficit. Et nous en parlons aujourd'hui avec Pierre Moscovici, notre grand invité du jour. Bonjour. Vous êtes le premier président de la Cour des comptes, une juridiction financière française chargée de contrôler la régularité des comptes publics, un poste qui a été précédé d'une carrière européenne bien remplie. Vous avez été commissaire européen, Pierre Moscovici, de 2014 à 2019, auparavant ministre des Finances, ministre en charge des affaires européennes sous deux gouvernements socialistes. Vous avez été aussi député européen, vous avez siégé donc dans les trois institutions, j'ai envie
Absolument.
De dire.
Absolument, je fais le tiercé dans le désordre.
Voilà. Nous commençons évidemment par une actualité qui marque cette semaine, la réélection, un peu surprise quand même, de Donald Trump. Vous avez tweeté « Nuit blanche, nuit sombre ». C'est-à-dire ?
Nuit blanche parce que je connais bien la politique américaine, elle m'intéresse, je suis professeur à Columbia accessoirement, et bon, j'ai regardé l'élection presque toutes les nuits. Une nuit sombre parce que vous disiez que c'était une victoire inattendue. Je n'en suis pas si sûr. C'était une victoire possible et qu'on voyait en réalité venir de loin. On a espéré la conjurer. Et je pense que c'est tout de même une nouvelle difficile pour le monde, pour la France, pour l'Europe. Évidemment, il va falloir voir ce qui se passe. Il ne faut jamais condamner un président par avance. Donald Trump a été plutôt un peu plus apaisé dans ses propos suivant son élection. Il a manifesté la volonté d'unir les Américains. Est-ce qu'il saura se réinventer à 78 ans avec son tempérament, avec ce qu'il est, avec ce qu'il a été ? Je n'en suis pas sûr. Les États-Unis sont nos alliés, ce sont nos amis. Il va falloir naturellement continuer à travailler avec eux et donc avec le président des États-Unis, entretenir une relation politique et diplomatique, d'où les félicitations qui ont été faites par les uns et les autres, notamment le président de la République française, très tôt. Mais il faut quand même regarder les choses, ce sera difficile, peut-être même très difficile, voire très très compliqué.
Alors vous estimez d'ailleurs que cette élection égise de l'Europe un sursaut existentiel malgré ces divisions. Quel sursaut exactement ?
Au mieux, nous aurons une relation convenable avec un partenaire rugueux. On le sait, l'Europe n'est plus la priorité des États-Unis depuis quelque temps. Le pivot vers l'Asie a été opéré par Barack Obama. On a eu une espèce d'éclaircie avec Joe Biden, qui était un homme d'une génération antérieure, qui avait connu la guerre froide, qui était sénateur depuis des décennies, et qui a impliqué à nouveau les États-Unis en Europe. Il était entouré aussi d'une administration qui nous connaissait bien, quelqu'un comme Blinken, qui est un Américain qui a vécu en France, un ami, des gens qui étaient des pro-européens. Mais là, on va revenir vers quelque chose qui sera, à l'évidence, beaucoup plus isolationniste. Alors, espérons le mieux, mais le mieux, c'est ça, si vous voulez, c'est une sorte de neutralité, d'amitié un peu contrariée. Et puis, il y a un autre scénario, c'est que ça se passe moins bien. Et les risques ne sont pas négligeables. Si on écoute ce que dit Trump, et si on regarde ce qu'il a fait dans son premier mandat, attention, c'est un homme qui... C'est un businessman. Donc, il fait ce qu'il dit. Et les risques sont multiples.
Faire la paix en Ukraine en 24 heures, hein, voilà. C'est ce qui vous inquiète ?
Faire la paix en 24 heures, si c'est aux conditions de Vladimir Poutine, c'est difficile. Mais si les Américains décident de retirer la prise, en quelque sorte, d'arrêter leur soutien à l'Ukraine, alors qu'ils sont quand même les premiers contributeurs. Nous sommes les Européens ensemble les premiers contributeurs. Mais bien sûr, ça repose beaucoup sur le soutien américain.
Et sur les armes américaines.
Et sur les armes américaines. Donc là, il y a une question fondamentale. Et la question qui nous est posée, c'est comment est-ce que nous pouvons... apprendre le langage de la puissance, faire aussi la preuve que nous sommes capables de nous défendre, non pas sans les Américains, nous resterons dans l'OTAN, mais éventuellement par nous-mêmes si la situation l'exige. Donc il y a un défi géopolitique et de défense. Il y a un deuxième défi qui est la question climatique. Donald Trump est un climato-sceptique. Il a annoncé son intention de retirer des dispositifs comme l'IRA. Alors, ça présente certains avantages pour nous parce que c'était assez protectionniste, mais c'était aussi quelque chose qui manifestait l'implication des États-Unis.
Les subventions massives à l'industrie verte américaine,
précisons. Oui, mais ça voulait dire aussi que les États-Unis avaient conscience que le changement climatique était un défi. C'était pas le cas avec Donald Trump dans son premier mandat, puisqu'il avait retiré son pays des accords de Paris. Souvenez-vous de ce qui avait suivi la COP21. Et donc, c'est un problème si les États-Unis décident que le climat n'est plus un défi mondial qui doit être assumé par tous. Et enfin, il y a les questions économiques. Donald Trump est un protectionniste. America first.
Il a précisé que même si nous étions alliés, il nous taxerait déjà d'entrée de 10% de droits de douane supplémentaires.
On sait qu'il y aura cette confrontation, compétition avec la Chine, avec des droits de douane qui seront pour le coup massifs sans doute avec la Chine, mais qui seront aussi significatifs avec nous de 10 à 20%. Ce qui veut dire que ça peut générer de l'inflation, ça peut créer des difficultés pour nos entreprises. Et donc, voilà, trois défis. Et c'est pour ça que je parle de sursaut existentiel de l'Europe, parce que ça veut dire que dans cette situation-là, nous n'avons pas d'autre alternative que de nous construire. Regardez le monde autour
mais
de nous.
Mais comment être unis? Parce que j'ai envie de dire, les divisions des Européens sont bien
c'est
réelles.
Bien pour ça que j'ai marqué,
Orban a
c'est,
profité
c'est pour ça que j'ai marqué, malgré,
du sommet de la communauté.
J'ai écrit malgré nos divisions.
Européenne jeudi, donc à 49 pays du vieux continent qui sont réunis dans un stade de foot à Budapest pour se réjouir de l'élection de Trump. Cela va renforcer aussi les chevaux de Troie en Europe et peut-être les régimes autoritaristes.
C'est certain que nous avons affaire à un autoritariste. Certains de ses collaborateurs, si on se collabore, de parler d'un fasciste, je souhaite qu'on évite ça, bien sûr. Mais disons que faut quand même saluer la démocratie américaine. Cette élection, elle a été libre et régulière, comme toutes les précédentes d'ailleurs, même si Donald Trump avait contesté l'élection de 2020. Souvenons-nous quand même de cette insurrection devant le Capitole. Mais ces illibéraux qui prospèrent en Europe, dont Donald Trump est le chef, en quelque sorte l'inspirateur, avec Viktor Orban, avec M. Fixo, le leader slovaque. Tout ça, ça
et vous
dire...
mettez Giorgia Meloni dedans, parce qu'on dit qu'elle
non, Giorgia Meloni est également le leader d'une formation d'extrême droite qui a pris des positions atlantistes. Mais il se peut que les États-Unis aient l'intention justement de prospérer sur nos divisions. Ils vont peut-être chercher à les susciter. Et c'est pour ça que je disais que c'était la difficulté du sursaut. Mais il faut surpasser ça. Il faut être conscient que si nous sommes divisés, si nous sommes fragmentés, si nous ne sommes pas capables de bâtir une réaction ensemble, alors à ce moment-là, nous serons affaiblis. Le monde est redevenu un monde de puissance et c'est devenu un monde dangereux. La Chine, une puissance hégémonique qui vise la première place dans le monde. La Russie, qui est tout de même aujourd'hui un fauteur de guerre sur notre continent, l'Europe. Les États-Unis, avec cette espèce d'isolationnisme, nationalisme qui se profile, avec des formes qui peuvent être plus ou moins agressives. Dans ce contexte-là, les Européens ont le choix. Soit ils se divisent et ils disparaissent. C'est-à-dire qu'ils sont réduits à être un certain nombre de cibles ou de proies livrées aux uns ou aux autres. Soit ils s'unissent, et si nous nous unissons, nous avons la capacité de peser dans le monde. Nous sommes une puissance économique incontestable, la deuxième ou la première à égalité avec les États-Unis. Nous avons des valeurs, nous sommes des leaders en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons un système éducatif, un système social, un État-providence. Nous partageons et nous chérissons la démocratie. Et nous avons aussi des capacités de défense si nous nous mettons bout à bout et si chacun augmente son propre effort. Et si nous sommes divisés, nous sommes faibles. Si nous sommes unis, nous pesons. La communauté politique européenne est sans doute un premier moment pour faire une photographie, pour faire un arrêt sur image. Il va falloir avancer, et avancer ensemble, avec un puissant leadership. Alors, la France a sans doute un rôle à jouer en la matière.
La France, mais Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, la France affaiblit quand même, puisqu'on est arrivé à se réveiller avec un déficit de 6% du PIB. Est-ce que vous l'avez vu venir? Est-ce que ça n'est pas un facteur d'affaiblissement certain de la France la scène européenne?
Vous savez, sur la scène européenne, ce qui affaiblit la France, et sans doute ça, je vais y venir, mais c'est avant tout la donne politique. Ne nous cachons pas que nous sommes dans une crise politique dont la situation des finances publiques est aussi une manifestation. La dissolution, l'absence de majorité, le socle commun fragile, les oppositions qui ne sont pas toujours des... je semble commenter une situation politique dont je ne suis plus acteur. En tout cas, si j'en parle, c'est parce que ça se traduit dans l'action publique. Situation de finances publiques, oui, c'est un facteur d'affaiblissement objectif dans la mesure où nous avons connu une année noire en 2024, où on n'a jamais vu un dérapage budgétaire de cette nature et de cette ampleur hors période de crise. On a déjà vu des 1,5 de plus. Là, on a 1,7 tout de même de points de PIB, 4,4% de déficit voté, 6,1 exécuté, 50 milliards de plus. Et nous faisons ça au moment où les autres, au contraire, réduisent leur déficit. Nous ne maîtrisons pas notre dette. Notre dette est aujourd'hui la troisième de l'Union européenne en pourcentage du PIB, plus de 110%, et elle continue d'augmenter. C'est la plus importante en volume, plus de 3 200 milliards d'euros. Et nous avons le devoir, à l'égard de nos partenaires européens, de montrer que nous respectons les règles de notre copropriété commune, qui est l'euro. Nous avons le devoir de nous désendetter pour retrouver des marges de manœuvre.
Vous dites d'ailleurs que ce n'est pas sur cette année précisément, mais jusqu'en 2029, qui ne, si on peut repasser à 3% de déficit.
Il faudra aller en dessous, oui.
Il faut 20 milliards d'économies tous les ans. Est-ce que c'est possible sans sacrifier, justement, vous parliez de notre modèle social, les services publics, et puis quel ratio d'ailleurs, hausse d'impôts et baisse des dépenses pour
alors, 2024 est le parachèvement d'un cycle budgétaire où nous n'allons jamais cesser d'augmenter les dépenses, d'affaiblir les recettes et de voir nos déficits croître. C'est une politique délibérément expansionniste. Je n'ai pas à commenter le fait de savoir s'il n'a pas réussi ou réussi. Je ne suis pas en train de faire l'autopsie de démonter ce qui a fonctionné ou pas fonctionné ces dernières années. D'ailleurs, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Et puis, c'est facile de juger ex post. Non, ce que je constate en tout cas, c'est que c'est fini. L'ancien ministre des Finances, Bruno Le Maire, aimait bien à dire souvent que le quoi qu'il en coûte était fini, puis il n'a jamais été fini. Là, c'est terminé. Autrement dit, nous entrons dans un nouveau cycle budgétaire. Il y a eu une phase expansionniste, maintenant nous allons avoir une phase d'effort. Et elle va durer plusieurs années. Il faut être conscient que si nous voulons arriver à 3% en 2029, je me réjouis que ce soit 2029 et pas 2027. J'ai été le premier, je crois, à le proposer. 2027, c'était trop court et trop brutal. Il va falloir faire un effort continu qui n'est pas de l'austérité. Et c'est là, quand vous donnez 20 milliards d'euros, ben, c'est énorme, 20 milliards d'euros comme ça. Ceux qui nous regardent se disent 20 milliards d'euros, c'est comme... Oui, mais cette année, on a augmenté le déficit de 52 milliards d'euros. Et donc, c'est de ça dont il faut partir. Nous avons quand même une masse budgétaire tout à fait considérable. Nous avons 57% de dépenses publiques dans le PIB. C'est plus que n'importe quel pays au monde. Nous avons 3,5 points de plus qu'avant la crise en 2019. Est-ce que les Français ont l'impression que ces 3 points de plus de dépenses publiques ont créé davantage de services publics qui marchent mieux ? Non. Il y a un problème de qualité de la dépense publique. Donc, on peut faire des économies. Alors après, enfin, vous m'interrogez sur la répartition impôts et dépenses. Cette année, constatons-le, pour des raisons qui tiennent justement à la crise politique, au fait que le gouvernement a été formé tardivement, qu'il n'a pas de majorité, on fait beaucoup d'impôts quand même. Il y a aussi un souci de justice fiscale qu'il faut entendre. Mais pour les impôts, je vais utiliser une formule qui est un peu comme la sécurité routière. Une fois ça va, deux fois bonjour les dégâts. Autrement dit, cette année, le partage impôts-économie est plutôt en faveur des impôts parce que c'est ce qui est disponible tout de suite et parce qu'il y avait cette exigence de justice fiscale sans doute. Pour les années suivantes, il ne faut pas recommencer. Il faudra basculer dans un mode où c'est essentiellement l'économie sur la dépense publique, mais l'économie intelligente, la réforme des services publics, la qualité de la dépense publique qui permet de réduire notre déficit.
Alors Pierre Moscovici, vous mentionnez notre place économique en Europe. Parlons de l'influence allemande avec une crise politique dans la première économie de la zone euro où Olaf Scholz s'est séparé de son très rigoriste ministre des Finances, ce qui pourrait générer d'ailleurs de nouvelles élections. Récit tout de suite de Léo Péchard.
Une décision qui plonge l'Allemagne dans l'incertitude politique. Mais le chancelier l'affirme, il n'avait pas d'autre choix que de renvoyer son ministre des Finances et de faire tomber sa propre coalition.
Trop souvent, les compromis nécessaires ont été noyés dans des disputes publiques et des revendications idéologiques bruyantes. Trop souvent, le ministre fédéral Lindner a bloqué des lois de manière insignifiante. Trop souvent, il s'est engagé dans des tactiques partisanes mesquines. Trop souvent, il a trahi ma confiance.
Jusqu'à présent, les sociaux-démocrates d'Olaf Scholz, les Verts et les libéraux formaient une coalition fragile. Le point de rupture a été atteint après des mois de querelles entre les trois formations sur la politique économique à mener. Les Verts et les sociaux-démocrates souhaitaient plus d'investissements de l'État dans l'économie et un impôt plus lourd pour les plus aisés. Hors de question pour Christian Lindner, le ministre des Finances limogé, qui rejette à la fois les hausses d'impôts et une modification des règles budgétaires.
Olaf Scholz n'est plus intéressé par un accord viable pour tous, mais plutôt par une rupture calculée avec cette coalition.
Olaf Scholz va solliciter un vote de confiance le 15 janvier prochain. S'il le perd, des législatives anticipées seront alors organisées au plus tard à la fin du mois de mars.
Pierre Moscovici, une Allemagne affaiblie politiquement à un moment de défi géopolitique sans précédent que vous avez bien décrit, ça n'est pas très bon pour l'Europe ?
Alors, première chose, il y a d'abord la crise politique, mais ça se déroule sur un fond qui est celui d'une crise économique. C'est-à-dire le modèle économique allemand, il est sévèrement impacté justement par cette situation du monde. Ce modèle économique qui reposait sur l'exportation, il était assez dépendant justement du marché chinois, et il était très dépendant des énergies fossiles qui venaient de Russie. Et de ce point de vue-là, la guerre en Ukraine d'une part, la crise Covid, la montée du protectionnisme, l'offensive chinoise ont touché ce modèle allemand qui reste très fort, quand même 22% de l'industrie dans le PIB contre 11% en France, mais avec des années qui ont été des années de récession et l'année qui vient, 2025, sera encore une année de croissance très faible. Donc il y a une remise en cause du modèle allemand et il y a besoin de le redéfinir. Et dans ce contexte, je ne dis pas ça parce que je connais bien Olaf Scholz, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui était mon homologue quand j'étais commissaire en charge des finances, qui est un ami, mais je crois qu'il a entièrement raison. C'est-à-dire Christian Lindner, et je dis ça d'un point de vue d'Européen, était un empêchement à investir pour l'Allemagne et aussi pour l'Europe. Et cette situation ne pouvait pas perdurer, car quand vous avez besoin quand même d'investir massivement, regardez ce qui s'est passé avec le rapport Draghi, et que vous avez un ministre allemand qui fait comme si rien ne se passait, qu'on était sans arrêt les pieds sur le frein, et tout le monde sait qu'il faut à un moment donné réaccélérer, cette situation ne pouvait pas perdurer. Et cette crise politique, je crois qu'elle vient aussi de ça, c'est-à-dire du fait que Olaf Scholz sait qu'il ne peut pas répondre à la crise économique et sociale allemande si on l'empêche d'agir sur le plan financier, ce que fait son ministre des Finances. Il a raison de vouloir provoquer cette clarification. Par ailleurs, il y aurait eu de toute façon des élections en Allemagne en 2025. Il a sans doute voulu les provoquer parce qu'elles risquent d'avoir lieu. Il ne faut pas s'illusionner. Ce que dit Christian Lindner est assez clair sur le sens du vote que le FDP fera, qui ne sera pas un vote de confiance. Après tout, il court sa chance ou il prend son risque. Mais là où vous avez raison, c'est que ça intervient précisément le jour où Donald Trump est réélu, ça intervient au moment où il y a cette confrontation, clarification entre les Européens. Et c'est vrai que pendant cette période, l'Allemagne risque d'être assez tournée, comme c'est toujours le cas en crise politique, vers elle-même. Et de ne pas être en situation forcément proactive en Europe, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas improbable ou pas impossible que des élections sortent une nouvelle coalition. Et peut-être même un nouveau parti majoritaire.
Pour terminer, Pierre Moscovici, au Parlement européen, c'est la semaine des auditions des 27 commissaires qui doivent composer la commission von der Leyen 2. Vous avez subi ce grand oral qui, paraît-il, est terrifiant en 2014. Est-ce que vous en avez gardé des souvenirs et ému? Et effectivement, dans cette commission, il y aura Stéphane Séjourné, le Français, mais il y a aussi pour la première fois la droite radicale avec un Italien. Comment vous trouvez cette composition ?
Écoutez, vous savez, j'ai une tête de bon élève et je ne suis pas stressé par les grands oraux. J'en ai fait beaucoup des examens dans ma vie, donc j'avoue que j'y suis allé très concentré, très sérieusement préparé, mais pas vraiment paniqué. Je pensais que ça pouvait bien se passer. Alors, après, quelques réflexions moins personnelles. C'est très dur. Et c'est très bien. C'est-à-dire, moi, je trouve ça bien que quand on a un ministre, on ne prenne pas n'importe qui et qu'on l'interroge avant. Et si on pouvait avoir des auditions parlementaires dans certains pays, ce ne serait pas forcément si mal. Deux, c'est très exigeant. Donc, il faut quand même bosser beaucoup. Le conseil que je donne à Stéphane Séjourné, il n'en a pas besoin. Je crois qu'il travaille jour et nuit. C'est de se préparer, avoir en face de lui des gens qui vont vraiment le cuisiner sur tous les sujets.
La droite radicale vice-présidente, ça
Il y a effectivement le cas de ce ministre italien qui vient de la droite radicale de Giorgia Meloni. Je peux imaginer qu'entre les trois grands blocs, d'une part le PPE, d'autre part les conservateurs, d'autre part le PSE, et enfin ce marais d'extrême droite, il y aura des discussions qui sont du style je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça vient ternir la vérité des prix. La vérité des prix, ça devrait être la compétence qu'on montre à l'oral. En réalité, il y a aussi autre chose. Ça s'appelle la politique, d'une certaine façon.
Merci Pierre Moscovici d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. L'actualité continue, bien sûr, sur nos antennes.